La chimie théorique, miroir de la réalité ou miroir aux alouettes, par Odile Eisenstein, qui est directeur de recherche au CNRS, médaille d'argent du CNRS, ça j'en suis sûr. Elle est membre d'une académie internationale de sciences moléculaires quantiques. Elle a reçu, et ça c'est assez exceptionnel pour être noté, elle est théoricienne, elle fait de la mécanique quantique, et elle a reçu de la part de la Chemical Society en Angleterre et de la part de l'American Chemical Society aux États-Unis, des prix qui sont en général réservés à des expérimentateurs, ce qui montre l'intérêt qu'elle porte à l'expérience et l'aide qu'elle apporte aux expérimentateurs pour interpréter ou prévoir leurs expériences. Alors, je ne dirai pas ses 293 articles dans des revues à comité de lecture. Elle a aussi dirigé de grands journaux scientifiques, notamment le New Journal of Chemistry. Et elle est membre de l'équipe de chimie théorique, méthodologie, modélisation de l'Institut Charles Guérard à Montpellier. Voilà, Odile, si tu veux bien nous parler donc de la chimie théorique pendant 50 minutes.
Avec grand plaisir, Michel. Bonjour, bonsoir, puisque on est en fin d'après-midi. Je vous remercie d'être venu en cette fin de bel après-midi, de samedi, de week-end, pour passer quelques instants devant ce sujet a priori rébarbatif, la chimie théorique. Voulez-vous faire de mieux un samedi soir? Peut-être aller boire un pot, mais ça peut-être on pourra le faire après. Donc oui, Michel m'a demandé de parler de ce sujet. J'ai trouvé que c'était un défi intéressant et je vais essayer donc de vous présenter ceci dans les temps impartis. Donc je vais commencer par un paradoxe parce que en fait, chimie théorique, mais la chimie, il n'y a rien de plus expérimental que la chimie. C'est une science qui va permettre d'en regarder des structures, c'est une science des propriétés de systèmes chimiques, c'est une science de transformation des systèmes chimiques. Les systèmes chimiques peuvent être ce qu'on appelle des molécules, c'est-à-dire des systèmes finis, ou ce qu'on appelle des matériaux. Les matériaux, c'est des systèmes de très, très, très grande taille. Donc c'est une science expérimentale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et là-dessus va venir quelque chose qui est de la théorie. Je voudrais commencer par dire que le mot théorie, c'est un mot vague, c'est un mot très vaste. Parce que pour moi, théorie inclut avant tout l'idée de comprendre, d'établir des concepts et d'analyser des observations expérimentales. Ça ne veut absolument pas dire écrire des équations, par exemple. Cela veut dire, d'une certaine manière, réfléchir de manière abstraite aux observations. Pourquoi faire ceci? Parce que ce qui est effectivement intéressant, c'est que si vous avez une observation à un moment, et si vous comprenez peut-être ce qui s'est passé, vous pourrez peut-être comprendre mieux l'observation suivante dans des conditions légèrement différentes. Et si vous comprenez la première et la deuxième, vous avez encore plus de chances peut-être de comprendre des choses peut-être encore un peu plus différentes. Donc au cœur du mot théorie, comprend déjà avant tout, essayer d'analyser. Ceci dit, c'est effectivement quelque chose qui, maintenant, a pris une signification différente, parce qu'actuellement, la chimie théorique a un aspect fortement numérique, parce qu'on y trouve le mot « calculer ». Alors le calcul, effectivement, va être un des points qui va peut-être vous intéresser, ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas de calcul ensemble, mais mon but ici, c'est d'essayer quand même de vous montrer pourquoi un calcul sur lequel je vous ferai grâce tout, effectivement les détails, sert avant tout à analyser. Parce qu'au total, pour moi, la chose principale, c'est de comprendre. Et quand on comprend, on parle aux expérimentateurs, l'expérimentateur en général fera automatiquement de la meilleure chimie, parce que comprendre ce qu'on fait, nous le savons tous, c'est le cœur de la discipline, le cœur de l'avancée en science. Encore une fois, et c'est là où quelque chose d'assez intéressant, Vous avez eu une semaine de chimie, vous avez vu des chimies très variées, si vous avez eu le plaisir de venir tous les soirs. Et donc, il y a c'est différent de faire, disons, de la chimie de ce qu'on appelle des molécules organiques. Hein, les molécules organiques, elles ont, disons, c'est des sucres, par exemple, ou des produits d'intérêt pharmaceutique. Des minéraux, c'est une autre chimie. Donc, en général, vous inviterez et vous écouterez des chimistes différents. Par contre, quand on dit le mot chimie théorique, vous n'invitez en général qu'un chimiste théoricien. Or, le chimiste théoricien, c'est quelqu'un qui, a priori, va pouvoir faire aussi bien des études de systèmes, donc genre de sucre, ou de molécules d'intérêt biologique, et aussi de matériaux. Donc, a priori, c'est quelqu'un qui pourrait aller dans toutes les disciplines. En fait, les choses ne sont pas aussi simples, et on va se retrouver avec autant de chimistes théoriciens, avec des compétences, je dirais, plus ou moins fines, parce qu'il faut quand même comprendre le domaine expérimental, que de domaine de la chimie. En d'autres termes, Michel, il aurait pu être souhaitable, juste, c'est un paradoxe, c'est juste pour soulever l'argument, d'inviter en parallèle un expérimentateur et un théoricien du même domaine. C'est évidemment, peut-être, ça aurait été évidemment un peu ardu, mais c'est pour vous montrer que le théoricien, il n'y a pas un théoricien, il y a des théoriciens. Alors, on va commencer par quelque chose, effectivement, j'essaie de vous montrer que, encore une fois, ce qui est important, c'est d'établir des concepts, et évidemment, une fois qu'on a établi des concepts et des idées extrêmement simples, on s'aperçoit que c'est trop simpliste, on veut aller plus loin. Alors, je ne vais pas repartir sur le fait, parce que je vais rester quand même dans le domaine du moléculaire qui est peut-être le plus simple. Bon, j'espère que vous avez tous ce que c'est que la notion de molécule. C'est un ensemble d'atomes faisant un système isolé, ayant une structure connue que l'on peut regarder et que l'on peut étudier, que l'on peut transformer. Encore une fois, par exemple, typiquement, si vous regardez la composition d'un produit pharmaceutique, chacun des produits que vous voyez sur l'étiquette sera une molécule. Quand on connaît la composition donc, d'une molécule, on sait les atomes qui la composent et on sait, a priori, ce que chaque atome a comme propriété intrinsèque. On le sait parce qu'on sait sa position dans le tableau périodique et automatiquement, on sait comment il va se composer par rapport à l'autre. Alors, ce qui est important dans la chimie théorique, en tout cas une des chimies théoriques, on va après voir un autre aspect, c'est qu'on va s'intéresser avant tout à ce qui va se passer sur la partie électronique, c'est-à-dire une molécule, donc fait d'atomes. L'atome est fait d'un noyau qui ne fera rien. Nous ne sommes pas dans la chimie nucléaire, nous ne sommes pas en physique nucléaire, nous ne touchons pas un noyau. Mais nous regardons ce que font les électrons à l'intérieur entre les atomes. Et en fait, et c'est ça le point très important, c'est que ces fameux petits électrons qui sont minuscules par rapport au noyau sont ceux qui vont faire toutes les propriétés des molécules. Alors imaginez que vous avez un noyau là, c'est des grosses boules pour nous. Et puis vous avez deux minuscules petits électrons qui vont tourner entre ces deux noyaux et qui vont tenir ces noyaux. Donc finalement, de manière extrêmement paradoxale, c'est d'étudier les propriétés de la plus petite des parties, disons des particules qui ont les plus petites tailles dans les molécules qui vont déterminer complètement leur comportement. Si vous voulez, moi je comparais ceci à l'idée suivante, vous prenez un éléphant et vous lui remettez tout en haut un tout petit guide qui va taper sur l'éléphant et l'éléphant va obéir. En d'autres termes, l'éléphant, bon, s'il a décidé d'aller sa voie lui-même, ce n'est pas le cas du noyau, il est beaucoup plus inerte. Donc c'est les électrons qui vont guider le noyau, c'est le petit guide qui va guider l'éléphant. Alors, en fait, chaque atome est entouré d'un certain nombre d'électrons, et on sait depuis longtemps, ça a été fait de manière qualitative, et ça peut rester un qualitatif, mais ce n'est pas suffisant, que typiquement dans une molécule comme ceci, hein, un carbone, trois hydrogènes et un chlore, on sait qu'a priori, vu la position de ces atomes dans le tableau périodique, On sait qu'il y a des électrons, ils aiment plutôt aller sur le chlore. D'accord ? Et les électrons, ils vont plutôt s'éloigner du carbone quand le carbone est à côté du chlore. Donc, quelque chose déjà qui était connu depuis des années et des années, c'est de la chimie conceptuelle. On savait que, en général, il y avait plus d'électrons là, qu'il n'y en avait là, qu'il n'y en avait là. Et dès qu'on sait ça, ben on peut se dire, ben on va peut-être après pouvoir l'utiliser pour comprendre ce que fera cette molécule. Ceci est effectivement qualitatif, est extrêmement utile. C'est en fait ce qu'on apprend assez rapidement en première année, je dirais même en chimie ou au lycée. Et cela vous donne tout de suite des propriétés simples des molécules. En fait, par exemple, si vous avez quelque chose qui plein d'électrons qui va arriver, bah, vous vous doutez bien que si vous arrivez quelque chose plein d'électrons qui arrive et qui veut regarder comment il va s'approcher d'ici, il ne va pas venir par là, parce qu'il y a déjà trop d'électrons. Alors les électrons, j'ai oublié de le dire, c'est important, c'est des espèces qui ont toutes une charge négative, et le négatif n'aime pas le négatif, le positif n'aime pas le positif, et le négatif aime le positif. Aussi simple que ça. Donc en général, les électrons ne veulent pas être ensemble, et par contre, donc si vous avez quelque chose de négatif, vous arriverez de ce côté-là. Donc très bien, ça c'était, c'est des concepts qui ont été établis depuis des années. Et effectivement, c'est utile, mais on pourrait aller un peu plus loin. Parce que ce qu'on voudrait, c'est quand même avoir une idée un peu plus quantitative. Il y a de nombreux atomes dans le tableau périodique, et si vous vous contentez de dire les électrons sont plutôt là que là, vous changez par un autre atome, bah, vous dites toujours c'est plutôt là que là, mais est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Et à quoi ça servira aussi? On va commencer par remarquer que la chimie, comme je vous l'ai dit, est faite de très 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 grand nombre de systèmes. Il y a des petits systèmes, quelques atomes. On peut aller plus bas, hein, on peut prendre la molécule d'eau par exemple. Trois atomes, HOH. Ici, c'est ce qu'on appelle le diméthyléther. C'est une petite molécule. Il y a des molécules qui sont beaucoup plus grandes. Ici, vous avez de l'ibuprofène. Vous avez dû tous, malheureusement, avoir à utiliser de l'ibuprofène. Eh bien, c'est une molécule qui est ici. Voilà, voilà. Donc, un certain nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Ça, c'est une étude qui a comporté l'ibuprofène. Nous n'aurons pas besoin d'aller dans cette direction-là. Mais vous voyez quand même que c'est beaucoup plus gros que ça. Puis, vous avez des systèmes qui sont encore plus grands. Vous avez des systèmes, donc, par exemple, un ensemble de molécules, d'atomes que vous connaissez, à l'intérieur d'une protéine, qui est gigantesque. Donc, ça devient très grand. Vous avez des systèmes qui sont des matériaux, ce qu'on appelle des matériaux, c'est en fait, c'est un mot générique pour des systèmes qui ne sont pas moléculaires, donc qui ne s'arrêtent formellement pas, évidemment, ils s'arrêtent quand même, ils sont finis, hein, une plaque d'acier n'est pas un matériau infini, vous coupez votre plaque d'acier quand même, mais dans lequel vous ne pouvez pas identifier quelque chose comme une molécule bien définie. Vous imaginez bien que si vous avez une tellement grande diversité de systèmes, vous n'allez pas pouvoir essayer d'utiliser les mêmes techniques pour aborder l'étude de ces différents systèmes. Il y aura donc automatiquement autant de méthodes d'approche pratiquement que de grands systèmes. Petites molécules, molécules de taille moyenne, très très grandes molécules, les systèmes matériaux ne seront pas étudiés avec les mêmes méthodes. De la même manière, vous ne souhaitez pas nécessairement avoir les mêmes informations. Vous ne souhaitez pas avoir la même précision. Alors, je vais vous donner un exemple, j'espère, qui n'est pas dans le domaine de la chimie, mais dans le domaine que vous devez tous avoir utilisé. Je ne sais pas combien d'entre vous utilisent la ligne RERB, qui est régulièrement en retard, mais vous savez qu'une demi-heure de retard sur la ligne RERB, bon, c'est fréquent, mais ce n'est qu'une demi-heure. Simplement, pour vous, une demi-heure de retard, ça peut être énorme. Si vous faites le Paris-Tokyo, une demi-heure de retard, ça ne se verra pas. Donc vous n'aurez pas besoin de regarder des systèmes petite taille, vous chercherez peut-être à aller très loin dans la description, la compréhension du système, donc dans ce qui se passe entre les atomes et les électrons. Et pour les grands systèmes, vous aurez peut-être une autre approche et une vision avec une vision numérique un peu plus faible. Ceci m'amène à vous dire qu'il y a en fait deux très grands domaines dans la chimie théorique. Ceci dit, ce qui recouvre une très grande diversité eux-mêmes de méthodes de travail. Mais ces deux grands domaines sont suffisamment distincts pour qu'il soit important que je les distingue. Il y a ce qu'on appelle la chimie quantique. La chimie quantique va avant tout s'intéresser à ce qui se passe au niveau des électrons et des atomes. Pour elle, un carbone, c'est vraiment un carbone, il y a des électrons autour. Un hydrogène, c'est un hydrogène avec les électrons qui viennent, l'électron qui vient. Donc ça sera la relation entre les noyaux et les électrons qui va être le sujet de la chimie quantique. Dans ce domaine, on va s'intéresser à ce qui se passe entre les atomes, donc ce qui se passe au niveau de la liaison. C'est-à-dire pourquoi deux atomes restent liés ensemble. Pourquoi est-ce que deux atomes voudraient s'éloigner? On pourra le regarder, puisqu'on va regarder finalement ce que deviennent ces électrons qui a priori tiennent les noyaux. Si jamais les noyaux se séparent, où vont les électrons? Que font ces électrons? Donc on va effectivement focaliser sur ce qu'on appelle les propriétés électroniques associées aux électrons. Grâce à ces méthodes, on peut obtenir une grande précision. C'est en fait la plus grande précision que vous pouvez avoir sur un système quand vous regardez ce qui se passe au niveau atomique. C'est donc réservé en général à des systèmes de taille entre petite et modeste. Et on va voir après pourquoi. Et automatiquement, si vous cherchez surtout à aller des systèmes déjà un peu plus importants, cela devient très 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 gourmand en l'utilisation d'ordinateurs. L'ordinateur n'est plus un problème pour la plupart des chimistes théoriciens. Il y en a un nombre important. Ce n'est pas la partie la plus chère de la recherche, mais c'est quand même gourmand en temps. Le temps est quelque chose toujours d'important pour un chercheur. C'est un domaine qui est particulièrement adapté à étudier les transformations associées à des coupures ou à des formations de liaisons, et donc à tout ce qui est associé à la transformation de molécules. La transformation de molécules est au cœur de la catalyse. Ce sont donc effectivement comment partir, par exemple, d'un matériau brut comme, le pétrole, en faire des produits raffinés, c'est une transformation chimique. Donc c'est ce genre de choses que l'on pourrait regarder, parce qu'il va falloir casser et former des liaisons. L'autre grand domaine, c'est le domaine de la chimie théorique dite non quantique. Dans ce domaine-là, on veut vraiment aller vers les très 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 grands systèmes. On veut aller vers les systèmes d'intérêt biologique. On veut aller vers des systèmes, souvent aussi certains types de matériaux amorphes. On veut regarder des polymères. Les polymères, c'est tous vos matériaux artificiels. Ceci est un matériau synthétique, c'est un polymère. Donc là, il n'est plus question d'aller regarder ce qui se passe au niveau des électrons. Le calcul serait infiniment long et il faut trouver des méthodes simples et plus rapides. La façon de le faire, c'est d'essayer de ne plus tenir compte des électrons, mais d'utiliser quelque chose qui est purement un modèle. Avec ceci, on va pouvoir atteindre des systèmes très grands. Et ce qui n'est pas inintéressant du tout, et même très intéressant, c'est qu'on pourra regarder, par exemple, des propriétés comme l'évaporation. Vous prenez un liquide, vous regardez comment il s'évapore, c'est une propriété, à quelle température il va s'évaporer, on pourrait modéliser ce genre de propriété avec ces méthodes non quantiques. Ce sont des méthodes qui sont effectivement très puissantes, mais dans lesquelles certaines choses ne peuvent pas être étudiées, et donc en particulier, il n'est pas question de regarder des ruptures et des formations de liaison. Par contre, c'est un domaine de choix en biologie, un dépliement de l'ADN, quelque chose, voir s'il se tord, se détord sous une forme, sous une impulsion quelconque, et quelque chose qui peut se traiter par ces méthodes. Ces méthodes sont peu chères pour des petits systèmes, extrêmement peu chères, et effectivement deviennent coûteuses pour des très grands systèmes, mais elles deviennent abordables. On n'est plus, si on faisait les grands systèmes avec la méthode quantique, on parlerait peut-être de siècles pour faire de calculs, alors que là, on en reste à des temps tout à fait raisonnables. Donc des domaines très très différents. Ces domaines ne sont pas disjoints parce que le point important, c'est que les domaines, la chimie donc non quantique a besoin quand même de comprendre ce qui se passe pour modéliser les interactions. Je m'explique. Imaginez que vous prenez une molécule, vous la dépliez. Enfin, la molécule, vous regardez quelle énergie il faut pour la déplier. Déplier une molécule, c'est changer un angle. D'accord ? Vous tordez. Probablement, vous dépliez ou pliez. Éventuellement, vous tirez sur des atomes. Sans peut-être casser, mais vous tirez. Il existe aussi d'autres types d'interactions. Les atomes se voient à longue distance. Certains sont chargés positivement. S'ils sont chargés positivement, ils ne vont pas vouloir s'approcher d'un autre positif. Par contre, s'il y a un négatif, ils vont pouvoir s'approcher de ce négatif. Il existe en fait d'autres interactions qu'on appelle, qui sont des interactions dites faibles, qui sont encore plus complexes à comprendre, qui fait que finalement, tous les systèmes s'attirent un peu légèrement quand il y a des électrons et des noyaux, mais très légèrement. Donc toutes ces interactions sont des interactions qui sont connues en chimie quantique. Donc pour le transformer dans les grands systèmes, il suffit de paramétrer, c'est-à-dire vous regardez, vous allez faire un petit modèle et vous allez ensuite construire pour les grands systèmes. Vous allez dire, bon, ben, si je retrouve ces mêmes types d'atomes, eh ben, je mettrai quelque chose de numérique associé à ces atomes. Je n'en dirai pas plus longtemps, mais ce que j'insiste là, c'est que ces deux méthodes disjointes dans leur domaine d'application sont en fait profondément jointes dans la manière dont elles ont été établies. Je resterai aux méthodes quantiques et je vais l'illustrer en vous montrant certains paradoxes. J'aime beaucoup les paradoxes et j'aime beaucoup travailler là où il y a en général où je fais des erreurs où je ne comprends pas. Donc je ne vais pas vous parler uniquement d'erreurs, bien sûr, mais je vais vous montrer systématiquement des paradoxes pour vous montrer la démarche du chercheur dans ce domaine. Alors premièrement, méthode quantique, encore une fois, c'est des méthodes qui vont essayer de comprendre comment les électrons se comportent dans les molécules, entre atomes. Donc un atome A, un carbone, un hydrogène, deux électrons entre les deux, ces deux électrons tiennent ces noyaux, et il faut comprendre où ils sont. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énergie qui est associée à ces électrons. D'une certaine manière, comme à peu près tout le monde, ils aiment bien être à une énergie basse. Donc, ils ne veulent pas nécessairement monter en énergie. Donc, ce qu'on veut chercher, c'est la meilleure position de ce noyau, la meilleure position de ce noyau, associée à la meilleure position des électrons qui vont tenir ces noyaux. D'accord ? La molécule la plus simple auquel on pourrait penser en chimie théorique, c'est un atome d'hydrogène, un deuxième atome d'hydrogène, et un seul électron entre les deux. H2 avec un électron. normalement l'H2 neutre, la molécule d'hydrogène a 2 électrons. Trop complexe. Ce qui se trouve, et c'est là où devient, où est vraiment le problème, c'est que même pour quelque chose d'aussi simple, il n'y a pas de solution numérique, analytique, correcte. Donc, vous direz, bah, attendez, si on ne peut pas trouver déjà la solution, qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas, il va falloir passer par ce qu'on appelle les approximations. Très bien. Mais on voit tout de suite que si on ne sait pas faire déjà quelque chose qui est la molécule la plus simple qu'on peut penser, deux noyaux et un électron, si on accepte que ces noyaux éventuellement bougent, ou la molécule aussi la plus simple qui est deux noyaux et deux électrons, l'hydrogène, on est très loin de pouvoir même penser à savoir comment calculer donc les positions des électrons, les énergies de ces électrons, dans des systèmes très complexes. Donc ce qu'on dit, il suffit de résoudre l'équation de Schrödinger. J'aime beaucoup le mot « il suffit ». Schrödinger, prix Nobel 1933, il faut résoudre cette équation qui est une équation complexe aux dérivées secondes et premières. Et si on la résout, on obtient ce qu'on appelle une énergie et on obtient les positions des atomes. Et encore une fois, on ne peut pas la résoudre. Donc, on ne peut pas la résoudre. Finalement, le théoricien, depuis le début et l'établissement de cette équation, qui est une équation, elle, correcte, a passé son temps à trouver des solutions approchées pour résoudre cette équation. Et finalement, l'histoire de la chimie théorique a été l'histoire d'une évolution du plus simple vers le plus complexe pour essayer d'améliorer la résolution de ce système. Heureusement, bon, associé à ces nombreuses méthodes qui ont chacune des qualités variables, on va retrouver des logiciels. Alors les logiciels, c'est donc des codes informatiques. C'est l'équivalent quand, je ne sais pas moi, par exemple, vous allez utiliser certains logiciels sur vos ordinateurs. J'espère que vous en utilisez. Eh bien, nous avons les équivalents en chimie théorique. Ce sont des logiciels extrêmement complexes. La plupart sont payants, sous licence, et ont pris, par exemple, pour l'un des plus connus, ont été commencés à être développés dans les années, par exemple, 60, et ont continué à être développés avec à peu près des listes d'auteurs de 50 personnes. Et ça continue à augmenter. Donc, on ne parle pas de choses simples. Je voudrais juste signaler que ceci a été suffisamment jugé important pour résulter en deux prix Nobel. Le prix Nobel pour John Popple et le prix Nobel pour Walter Cohn. J'ai pris la citation directe en anglais, puisque c'est la citation donnée par le comité Nobel. Et le point important, les mots suivants. Développement des méthodes, donc numériques, computational veut dire numérique pour nous, en chimie quantique. C'est l'un des pères qui a parti il était mathématicien, un physicien, a décidé de travailler dans le domaine de la chimie et a proposé à développer les méthodes, une partie des méthodes et une partie donc du logiciel que l'on utilise presque tous. Et Walter Cohn a réussi à proposer une nouvelle méthode qui est particulièrement efficace pour traiter de très nombreux systèmes. Donc les deux ont eu un prix Nobel la même année pour avoir réellement donné à l'ensemble des théoriciens des moyens de travail. Par exemple, c'est l'équivalent, si vous voulez, d'un développement d'un télescope. C'est un outil qui va vous permettre de travailler. Donc c'est extrêmement important, et eux étaient des mathématiciens et des physiciens, et n'ont en général peut-être pas nettement été intéressés directement aux applications. Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans le paradoxe. Qu'est-ce qui intéresse un chimiste ? Alors on va dans le domaine des molécules, encore une fois, des petits systèmes finis. Et le point intéressant, c'est que on va calculer une molécule. Alors je vous rappelle que si vous faites une expérience quelconque, vous avez un nombre gigantesque de molécules dans un petit volume. Et nous, le théoricien, on va en calculer une. En plus, on va la calculer à une température qui est irréaliste, parce qu'en fait, on va la calculer à ce qu'on appelle le zéro Kelvin, le zéro absolu, c'est-à-dire là où les atomes ne bougent plus. C'est simplement des simplifications. C'est parce qu'on ne veut pas payer encore plus cher. Parce que normalement, on pourrait commencer à aller vers, à coupler, à permettre au noyau de bouger. Non, on ne va pas faire ça. Donc on va calculer des molécules, isoler une molécule, à une température irréaliste. Et avec cette proposition absurde, j'ai bien dit absurde, on va essayer de comparer à l'expérience. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de molécules ? Structure de molécules, c'est bien sûr l'arrangement d'atomes dans l'espace. Typiquement, la molécule d'eau, oxygène, un hydrogène ici, un autre hydrogène ici, donc, un système plié, 104 degrés, H, O, H. Voilà une structure. La liaison O, H, 0,96. Dans des distances qui sont des distances à nous, qu'on appelle les angstroms. Très bien. Il se trouve très intéressant, c'est que quelle est la preuve expérimentale d'une structure ? La plus grande preuve expérimentale d'une structure, c'est ce qu'on appelle, est obtenu par la diffraction des rayons X. Vous prenez des vrais cristaux et vous allez envoyer des rayons X et vous allez obtenir quelque chose qui vous permettra de positionner les atomes dans l'espace et de donner la structure de votre système. C'est un cristal. Si c'est un cristal, ça veut dire qu'il y a de très très nombreuses molécules dans ce système. Si c'est un cristal qui se tient, c'est que les molécules ne se repoussent pas, autrement le système n'existerait pas. Elles se tiennent entre elles. Donc attention, nous on a un cristal, enfin l'expérimentateur nous donne un cristal dans lequel les molécules sont en interaction, et on va le calculer quelque chose qui est une molécule isolée. Une molécule isolée qu'on va comparer à des molécules qui interagissent. Bizarre. Ça paraît pas logique. Alors juste pour vous démontrer que ça peut être vraiment pas du tout logique, j'ai trouvé cette publication dans la littérature, dans un excellent journal, qui vous montre un changement. Vous voyez ici, c'est plié comme ça. Et ici, ça change de position uniquement parce que ça interagit avec les voisins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une molécule dans un ensemble, les voisins vont lui faire quelque chose. Mais si vous êtes dans un amphi et il y a deux personnes qui vous entourent, ben vous savez qu'ils sont là. S'ils s'éloignent, vous avez plus de place. Vous allez peut-être pouvoir étaler vos papiers. C'est exactement la même chose en cristal. Donc il paraît peut-être absurde de penser qu'on va pouvoir calculer une molécule isolée, en obtenir une structure et comparer aux structures expérimentales. Parce que c'est la seule source d'information que nous avons. À gauche, le système expérimental. À droite, le système calculé. Alors, ce que vous voyez, vous dites, oula, ça se ressemble pas. Il y a des formes qui sont ensemble. Alors ça, ce sont des atomes de carbone. Là, vous allez avoir des atomes de carbone. Nous avons mis des atomes de carbone dans le calcul. Et vous voyez, il y a un cycle comme ça. Il y a un pentagone. Et là, il y a un pentagone. On est allé jusqu'à regarder la distance entre ces deux atomes. Et on retrouve la même ici. Ensuite, on regarde les autres. Tout ceci, c'est des carbones. Et on regarde les distances ici et on retrouve la même chose. la même chose ou alors ce qu'on appelle une précision suffisamment proche. Je ne veux pas rentrer en détail de ce qui est suffisamment proche, mais pour nous, c'est effectivement une très bonne relation. Il y a un gros atome ici, c'est un atome qui s'appelle le cérium, il n'a pas d'importance. Donc, premièrement, ce qu'on trouve, c'est que on a, apparemment, un cristal dans lequel toutes les molécules étaient empilées, et on a calculé une molécule isolée, et on a retrouvé la même géométrie. Les mêmes distances, les mêmes angles d'hyètre, les mêmes positions. La première conséquence, c'est qu'apparemment, l'empilement de ces molécules, les interactions de ces molécules dans le cristal, n'ont pas déformé la molécule individuelle. Ben, en fait, c'est assez simple. Les atomes dans une molécule individuelle sont tenus par des forces très importantes. En fait, les électrons entre les noyaux tiennent vraiment très fortement leurs atomes. Les forces qui tiennent les molécules de l'une à l'autre sont plus faibles. Un exemple, trois personnes l'une à côté de l'autre dans un amphi. Si les deux des personnes s'approchent trop de celle du centre, la personne au centre ne sera peut-être pas très contente, mais elle ne va pas se déformer, elle ne va pas s'allonger tout d'un coup, elle va rester quand même elle-même. C'est ce qui va faire, en fait, que les molécules dans un cristal, en général, et les exceptions sont particulièrement intéressantes, mais en général, finalement, est peu influencée par les voisins. Grâce à ça, nous allons pouvoir effectivement calculer, nous, des systèmes, chercher des positions et les comparer à des résultats expérimentaux. À partir de là, on peut se dire, retrouver un résultat expérimental, c'est pas très fascinant, puisque l'expérimentateur me dit, mais vous l'avez déjà, je l'ai déjà ce résultat. Qu'est-ce que vous m'apportez de plus ? Regardons cette petite boule blanche. Cette petite boule blanche est un hydrogène. Cet hydrogène, lui, vous voyez, il ne semble pas avoir été trouvé de la même manière que les autres atomes. D'accord ? Et en fait, il se trouve que les rayons X ne vont pas, donc cette méthode qui est d'étudier par rayons X, les rayons X, c'est ce qui se passe quand vous passez à l'aéroport, hein, c'est la même chose. Enfin, ce n'est pas la même puissance quand vous donnez. Ne vont pas trouver certains atomes aussi facilement. Le calcul, lui, vous l'a trouvé. Très bien. Passons à autre chose. Comme je vous ai dit, retrouver un résultat expérimental, pas passionnant, parce que l'expérimentateur dit toujours, je le sais déjà. Beaucoup plus intéressant est la possibilité éventuelle de trouver des structures inconnues ou de corriger des structures qui ont été attribuées de manière erronée. Il y a relativement peu de ce genre de cas, mais quand cela existe, c'est particulièrement fascinant. Alors, il se trouve que j'ai été impliqué personnellement dans ce genre d'analyse. Pour vous montrer simplement le genre d'erreur qui avait été faite, vous avez ici un atome entouré de 6 groupes. On appelle les groupes méthyles, c'est-à-dire un carbone et 3 hydrogènes. Et vous avez une géométrie qui s'appelle un octaèdre. Si vous la regardez selon cette direction, elle se représente de cette façon-là. Tout le monde pensait que c'était la géométrie réelle. Le fait que le système était explosif n'avait pas tellement encouragé les expérimentateurs à aller plus loin dans leur analyse. C'était pas passionnant quand même. Ils tenaient à leur laboratoire, et ils avaient décidé que quelques études leur suffisaient bien. Et dans les livres standards, on trouvait 7 molécules et octaédriques. Bon, il se trouve que j'ai fait partie des premiers qui ont essayé d'analyser ce système, et ensuite il a été repris de nombreuses fois, par des méthodes de tout niveau, et toutes les méthodes disaient que ça, c'était pas possible. Et la structure est en fait simplement une structure d'un autre type elle se voit le mieux à partir de cette géométrie. Vous faites tourner votre triangle du haut vers au-dessus du triangle du bas, c'est-à-dire en fait vous déformez complètement votre système vers une autre structure. Ce qui a été particulièrement agréable en ce cas, c'est que le calcul a précédé de 7 ans l'expérience. Et quand l'expérience du système peu stable, explosif, les rayons X ont été obtenus, eh bien l'accord entre l'expérience et la théorie était rafraîchissante pour les théoriciens. Un des atomes les plus durs à trouver, comme je viens de vous le dire, c'est l'hydrogène. C'est dommage, c'est le plus petit de tous les atomes. On aurait pu penser que l'expérience peut le localiser aisément. Alors, il existe des méthodes qui ne sont pas donc qui vont pas aller directement à la distance, qui vous permettent d'avoir de l'information sur ces hydrogènes, mais au total, si vous voulez avoir des positions d'atomes dans l'espace et à savoir l'hydrogène est à quelle distance d'un autre atome, vous allez utiliser un synchrotron. Vous allez utiliser la diffraction des neutrons. C'est l'un des moyens d'étude les plus chers qui existent pour étudier des molécules. Il y en a relativement peu dans le monde. En Europe, nous avons le ESRF, qui est donc à Grenoble, qui est une opération européenne impliquant des finances à un niveau assez élevé. Donc, si vous voulez faire une structure et obtenir de l'information sur les hydrogènes, il faut en passer par là. Et cela a été fait. Et on a dû aller vers de la diffraction au neutron pour localiser 4 hydrogènes dans une molécule. C'est cher. Pour 4 hydrogènes, il a fallu aller au synchrotron. Il se trouve maintenant que si on fait ce calcul, on peut retrouver rigoureusement le même résultat, disons, en une journée, sur un ordinateur qui coûte 3000 euros. Ceci dit, les méthodes de calcul ont sérieusement avancé. Quand cette étude avait été faite en 90, et j'avais le plaisir d'y être impliqué, il n'était pas question de calculer la structure. J'avais pu avoir des idées sur la position de ces atomes. Il était totalement impossible à l'époque de les localiser correctement. Donc des distances n'étaient pas connues. Il y avait quelques idées sur les orientations, mais sans plus. Mais ce que nous avions fait, à quoi ça servait? Ça servait à comprendre des interactions entre des atomes qui n'étaient pas liés. Et ceci a permis de développer tout un domaine, ce qui était tout à fait intéressant. Donc maintenant, comme les gens n'aiment pas beaucoup et ne peuvent pas se permettre ces études très chères, et que finalement, au total, la diffraction au neutron est trop chère pour ce qu'elle apporte, on va faire une étude de la manière suivante. On va avoir une molécule qui a un certain nombre d'atomes qui, eux, sont localisables par les moyens pas chers, parce que pour faire des rayons X, tous les laboratoires de chimie en ont autant que vous voulez. Ce sont des moyens routiniers qui sont même utilisables par les étudiants. Et on obtient les positions d'atomes, tous sauf les hydrogènes. Et on demande à un théoricien, éventuellement maintenant, eh bien tu essaies de me trouver tous les atomes. Le théoricien ne va pas évidemment se contenter de localiser les hydrogènes. Il va essayer de retrouver la position de tous les atomes. Mais en plus, il apporte les hydrogènes. Si, et c'est le cas, il retrouve en plus la forme proposée par l'expérimentateur pour les atomes qui ne sont pas l'hydrogène, et s'il localise en plus ces hydrogènes, il a probablement la bonne structure expérimentale. Et bien sûr, nous avons de nombreux moyens de vérifier que tout ceci est cohérent. Voici typiquement un résultat que nous avons obtenu. Donc il y a 2 hydrogènes ici, un hydrogène là, un hydrogène là. Nous avons positionné les hydrogènes dans toutes les différentes positions et nous cherchons la valeur la plus basse possible. Encore une fois, en général, les électrons veulent être aussi bas que possible en énergie. Il y a quelque chose, comment je fais au point de vue temps ? Ouh. Il y a quelque chose que la théorie est particulièrement, pour laquelle la théorie est particulièrement puissante. C'est de regarder une transformation chimique. Alors, qu'est-ce que c'est une transformation chimique ? Une transformation chimique, c'est une molécule. Vous lui approchez une autre molécule ou un autre atome et vous allez casser une liaison. Vous voyez qu'ici, le carbone est lié au chlore. Le chlore, maintenant, n'est plus lié et le brome est lié maintenant au carbone. Et vous voulez savoir combien ça coûte ? Qu'est-ce que ça veut dire, combien ça coûte ? Est-ce que ça va être facile ? Ou est-ce que ça va être difficile ? Typiquement, je vais passer au transparent suivant avant de revenir. En général, bon non, je vais rester là, excusez-moi. Nous avons ici les molécules, les molécules ce qu'on appelle de départ, à un certain niveau en énergie, loin l'un de l'autre. Dans un amphi, quelqu'un est ici, l'autre est là. N'interagissent pas, chacun est là tranquillement, il ne se passe rien. Les deux s'approchent l'un de l'autre. En s'approchant l'un de l'autre, il va y avoir commencé à y avoir des interactions. Ces interactions, en général, vont avoir tendance à vouloir allonger une des liaisons et rapprocher l'autre. Ceci ne se fait pas sans une déstabilisation du système. Les gens ne sont pas contents. Casser des liaisons coûte de l'énergie. Donc cette barrière va être ce qui est le point le plus important. Je dois déjà terminer ? Okay. Donc, si nous sommes capables d'avoir combien il faut monter, nous avons une information sur ce qu'on appelle la vitesse de réaction. Plus ceci est bas, plus ça va vite. Plus ceci est haut, plus c'est lent. Le point important, c'est qu'il n'existe aucune autre manière d'accéder à cette information que de faire du calcul théorique. Le calcul théorique est le seul à pouvoir vous donner cette hauteur et l'arrangement spatial de tous les atomes à l'endroit le plus haut. Ceci est typiquement ce qu'on appelle un état de transition, c'est l'endroit où va passer le système lorsqu'il va partir du début, il monte, il passe, il retombe. Ça s'appelle un état de transition. Il n'existe aucun moyen de l'observer parce qu'il n'a pas de durée de vie. Trouver un état de transition est un défi. Ça se voit très bien en regardant la montagne, vous voulez monter. Vous voulez monter vers un col. Le col, c'est un état de transition. Il y a des endroits où ça paraît évident, vous suivez la route, puis vous arrivez là, et puis il est le col, il est là, mais vous devez passer par là, vous devez passer par là. C'est pas évident. Donc au total, il existe des méthodes numériques qui ont été développées, et on arrive à localiser ce fameux état de transition, dans lequel, qui est le point le plus haut, entre le système de départ et le système d'arrivée. Quand on caractérise ces positions, on a en général un type de réaction qui est identifié. Ici, ce que vous avez l'atome qui porte des électrons est aussi éloigné que possible de l'autre atome qui porte des électrons. L'un chasse l'autre. Il suffit de retrouver ce format. Par exemple, typiquement, vous avez ici une réaction où effectivement vous avez le même arrangement. Ici, il y a des électrons, ici, il y a des électrons. Ici, il y a un carbone et trois hydrogènes qui ont cette géométrie. Donc, les théoriciens vont identifier cette réaction et vont lui donner le même nom que dans la réaction précédente. Donc on va pouvoir identifier des types de réactions. Le problème, c'est que, alors là maintenant il va falloir que je raccourcisse, le problème c'est que, en général, Les systèmes sont souvent très complexes et on peut très bien décider de ne rien faire. Donc typiquement, attendre que les méthodes s'améliorent ou faire des concessions. Moi, personnellement, je trouve intéressant de faire des concessions parce que ça introduit une idée de l'importance d'identifier le vrai acteur dans une réaction chimique. Regardez cette molécule qui est une molécule naturelle, ça s'appelle un stéroïde. Ici, c'est une autre molécule aussi de la famille des stéroïdes. Et au centre, vous regardez ce qui se passe ici, et vous avez ici un cycle à 6 avec quelque chose qui montre qu'il y a une liaison entre ces deux atomes. Dans cette molécule, vous avez le cycle à 6 n'existe pas, clairement, il n'y a pas de liaison ici. Le théoricien, s'il essaie de comprendre comment cette molécule se transforme en celle-là ou celle-là en celle-là, va se dire, est-ce que j'ai besoin de calculer tout ça? Et il se trouve que l'expérimentateur qui faisait le modèle, Bob Woodward, et le théoricien à cette époque-là, à l'université de Harvard, en position de ce qu'on appelait un lecturer, c'est l'équivalent d'un ATER à cette époque, il avait 30 ans, ont réfléchi et ont décidé qu'effectivement, il n'était pas besoin de calculer cette molécule très complexe et qu'on pouvait, en fait, se limiter à ne calculer qu'une partie. Et que si on étudiait comment se comportait la partie, on avait l'information sur ce qui allait se passer pour la partie importante. C'est une démarche particulièrement importante, je passe sur ce point-là, parce qu'en fait, elle est reliée tout simplement à la notion du groupe chimique. Si effectivement vous avez identifié cette partie-là, aura les mêmes propriétés, quel que soit le reste de la molécule. Donc, l'intuition du chimiste va dire, il me suffit de regarder ce qui se passe là et je peux ignorer le reste. C'est ce que va faire le théoricien, essayer d'identifier les partenaires les plus importants de la réaction pour pouvoir les étudier. Comme je dis, un chat est un chat, quelle que soit sa forme, il ne va pas devenir un chien, ni un oiseau. Donc, si on identifie les atomes importants, on peut regarder leur transformation. Michel, me reste combien de temps? Parce que je vais éventuellement avoir à couper maintenant. Pardon? Non, mais j'ai aucune mémoire de quand j'ai commencé, c'est pour ça. C'est pas l'heure, je sais la lire, hein, il est 25, mais... Bon. Alors, oui, celle-là, c'est amusant. L'intérêt de la théorie, c'est aussi quelquefois de découvrir justement les partenaires cachés. Imaginez que vous avez une transformation qui se passe, et dans ce cas, la transformation qu'on voulait, c'était de savoir si on casse là, où on casse là, pour faire deux molécules. Dans cela, vous voyez bien que l'hydrogène n'existe plus, ici, il a été remplacé par un fragment, et ici, il a été remplacé là. L'expérimentateur ne comprenait absolument pas pourquoi il observait ce produit-là. Impossible, c'était imprévisible selon toutes ses approches. Le théoricien a essayé de regarder nous-mêmes, d'ailleurs. Nous avons essayé de regarder cette transformation et nous avons retrouvé qu'effectivement l'expérimentateur avait raison d'être étonné parce qu'on prédisait aussi l'autre. On a fini pendant des mois à rechercher le coupable, usual suspect, et on l'a trouvé. On a trouvé que c'était en fait un anion qui n'était même pas marqué dans la description de la réaction, associé à cette molécule qui vous voyez à une charge cationique, il y avait un système chargé négativement, qui était celui qui déterminait le choix pour le système qui avait été finalement observé et qu'on ne pouvait pas comprendre si on le négligeait. Donc, une des puissances de la chimie théorique, c'est en essayant d'étudier tous les cas, puisqu'elle peut faire tous les calculs, de trouver les coupables des crimes, c'est-à-dire des liaisons cassées ou des liaisons formées. Je pense que je vais sauter sur cette partie-là. Quelquefois aussi, juste pour signaler, quelquefois aussi, l'étude d'une étude théorique débouche sur un rendu vers l'expérimentateur. La proposition que nous avons d'un mécanisme permet à l'expérimentateur de développer un nouveau système. Et il se trouve que nous avons eu la chance de travailler sur une réaction qui a valu le prix Nobel à Yves Chauvin, ainsi qu'à deux collègues américains. Et nos études ont permis à collègues d'ailleurs américains qui travaillaient sur ces molécules de développer un catalyseur encore plus important, plus puissant, puisqu'il était associé à l'état de transition le plus bas. Quels sont les grands défis qui restent en chimie théorique? Oh, ils sont très nombreux. Ils sont mieux étudier le système chimique dans son environnement réel, tenir compte de l'ensemble de la complexité de la chimie, mettre vraiment le solvant, mettre vraiment les températures, mettre toutes les interactions entre les molécules. On est encore très très loin de le faire. Essayer de rapprocher les mondes dissociés qui sont les petits systèmes des grands systèmes. C'est-à-dire éventuellement pouvoir calculer mieux et mieux comprendre un petit système dans son ensemble. Grande difficulté pour calculer ce qu'on appelle des systèmes électroniques complexes, c'est-à-dire en particulier des états excités. Donc toute la photochimie, tout le magnétisme dont parlait Michel est extrêmement difficile encore pour les théoriciens. Et tout ceci, évidemment, est lié à des améliorations méthodologiques et à la puissance des ordinateurs. Et donc, chimie théorique, c'est une science jeune. Elle est née, effectivement, dès que l'équation Schrödinger est apparue, mais en fait, elle est devenue effective dans les années 60, avec en particulier les travaux de Roald Hoffmann. Elle a une vitesse d'évolution tellement importante qu'elle vieillit mal. C'est le contraire d'un bon vin. Vous ne faites pas attendre une étude théorique. Si vous ne la publiez pas, 2 ans après, on aurait pu faire beaucoup mieux. Elle vise à modéliser et surtout à comprendre. Si vous ne cherchez pas à comprendre, vous n'avez pas travaillé correctement. Prédire, c'est évidemment ce qu'elle souhaite faire. Il y a heureusement quelques exemples dans le domaine. Heureusement, et c'est le cas maintenant, la théorie a fortement influencé la chimie expérimentale. La collaboration expérience-théorie est fréquente dans la littérature et efficace, visiblement, au regard de l'augmentation de cette collaboration. Mais, et j'insiste là-dessus, la théorie ne remplacera jamais la chimie expérimentale. La chimie est une science expérimentale et le restera. Au cœur de cette difficulté est le fait qu'on ne pourra jamais intégrer l'ensemble de toute la complexité d'un système chimique. Il y aura toujours quelque chose qui n'aura pas été bien représenté, et heureusement. Je pense quand même qu'on fera de la très belle chimie en associant les chimistes théoriciens et les chimistes expérimentateurs. Miroir de la réalité, pas encore terrible. J'ai pris ceci, c'est un miroir artistique, mais comme vous voyez, on lui a enlevé des petits bouts pour le rendre artistique, c'est-à-dire c'est un miroir pas parfait. Ou miroir aux toilettes, qu'est-ce que c'est que ce bidule? C'est ce que je vous pose comme question. J'espère que vous savez ma réponse, mais c'est à vous de décider de la vôtre. Je voudrais quand même dire que, en tout cas, bien que j'ai présenté le problème général, évidemment, dans lequel tous les théoriciens ont été impliqués, moi, personnellement, j'ai bénéficié de maîtres absolument géniaux qui sont mentionnés ici, mes deux directeurs de thèse, mes deux directeurs de post-doc, j'ai eu des collaborateurs particulièrement enthousiastes et des collaborations avec des collègues expérimentateurs qui ont toutes dépassé 15 ans, montrant qu'on arrivait quand même à faire des choses ensemble. Je vous remercie.
Bien, merci Odile de cette présentation lumineuse d'une réalité complexe qui est la chimie théorique. Nous savons maintenant qu'un chat est un chat. Nous savons que dans la nuit, tous les chats sont gris, mais qu'on peut reconnaître un chat derrière un autre. En tout cas, merci. Nous pouvons maintenant commencer le jeu des questions et des réponses.
Y a-t-il une question ? Ah, il y a une question
Il y a une question là.
Oui, comment ça se passe ?
Bien, ça va bien se passer.
Ça va bien se passer,
j'espère
bien.
Au deuxième rang, ici, voilà.
Combien y a-t-il de chimie théoriciens dans le monde ?
Ah, très bonne question. Oui, les chimistes théoriciens sont maintenant très nombreux. Par exemple, le congrès de chimie théorique, qui est encore loin de rassembler encore l'intégralité de la communauté, rassemble actuellement facilement 1500 personnes et ne représente, à mon avis, que peut-être 10% de la communauté. Je pense qu'on doit être... parce que moi, j'inclus les étudiants dans ce cas-là. Je dirais que c'est un nombre très important... peut-être 10% du total des chimistes, du sein d'ordre de grandeur. En France, c'est une communauté forte, très structurée, qui se connaît bien, qui a des réunions régulières à tous les niveaux, et il y a aussi des réunions internationales, donc c'est une discipline bien établie à peu près dans tous les pays.
Une question là-haut, deux questions là-haut.
Oui.
Bonsoir, vous avez dit qu'on ne savait pas résoudre l'équation de Schrödinger pour des systèmes à plus de 3 particules. Est-ce que c'est...
De manière analytique.
Est-ce que c'est pour des raisons équivalentes au système à 3 corps de Poincaré?
Oui, c'est exactement ça. C'est rien de plus.
Et la deuxième question, c'est que vous avez parlé des systèmes pliés où il y a un angle entre deux atomes, on pourrait imaginer que... On pourrait imaginer qu'il n'y ait pas d'angle du tout pour des raisons de symétrie parfaite et de minima d'énergie. Donc comment explique-t-on simplement cet angle ?
Oui, alors typiquement, justement, par exemple, la molécule d'eau est un système idéal. Donc la molécule d'eau préfère être pliée que linéaire. Et on va regarder les interactions entre les électrons. Alors les électrons, il y aura deux types d'électrons dans la molécule d'eau. Il y a deux électrons dans chaque liaison OH, donc qui sont comme ça. Donc s'il y avait ces électrons-là, ça aurait été comme ça. Ce qui se passe, c'est, vu la position de l'oxygène dans le tableau périodique, il y a d'autres électrons. Et ces électrons vont rester sur l'oxygène, ils ne vont pas aller... interagir avec les hydrogènes, ils sont sur le centre. Donc vous avez au centre 4 électrons et vous avez donc impliqués dans les liaisons OH 2 autres, c'est-à-dire aussi 4 électrons. Et vous devez trouver la meilleure position pour cet ensemble. Alors la manière qualitative dont je vais vous la présenter est la suivante. Vous avez ici 2 électrons et 2 électrons sur l'oxygène. Ce sont des répulsions très fortes qui vont s'installer. Les électrons ne s'aiment pas, hein, comme vous avez compris. Donc ils vont vouloir s'écarter. Et la seule chose qu'ils peuvent faire s'ils s'écartent, c'est que les hydrogènes doivent se rapprocher pour permettre aux autres électrons sur l'oxygène de s'écarter au maximum. Vous avez finalement 4 pattes sur le centre oxygéné et avec 2 pattes qui ne s'aiment pas du tout. Donc ils vont se repousser pendant que les 2 autres pattes vont se rapprocher. Donc c'est, si vous voulez, un tétraèdre de 2 et les 2 autres. Et ça, on peut l'appliquer, ça c'est une des interprétations, il y en a plein d'autres, mais c'est une des interprétations qui marche bien pour un grand nombre de molécules.
Et lorsque vous avez un atome avec une structure électronique différente au centre, on peut parfaitement avoir... Alors, des molécules linéaires.
Tout à fait. Donc vous changez, vous enlevez en particulier les électrons, donc vous remplacez l'oxygène par exemple par un bore, il n'y a plus aucun de ces électrons au centre et automatiquement la molécule devient linéaire.
Oui, une question ici au centre.
Bonjour, je voudrais savoir, j'ai du mal à comprendre dans votre dernier travail, votre représentation, vous avez des hydrogènes qui sont liés au fer, vous mettez des pointillés, et vous avez deux hydrogènes, vous mettez une liaison.
Oui.
Alors comment vous vous débrouillez pour déterminer la position, parce que toute l'énergie est entre les deux hydrogènes, et il y en a très très peu avec le fer.
Oui, oui, oui.
C'est dans votre dernier travail avec Crabtree.
Oui, 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 tout à fait. C'est celui-là. Non, vous voulez... Donc, c'est le même problème, en fait. Alors, ce qui est très intéressant dans ces molécules, ça a été des molécules qui ont été une des révolutions vraiment de la chimie inorganique, c'est que vous avez des molécules dans lesquelles vous avez un atome métallique lié soit à un seul atome d'hydrogène, donc les électrons sont entre le métal et l'hydrogène, et vous avez quelque chose d'assez paradoxal qui est une molécule. C'est ce qu'on appelle, nous, un dihydrogène, c'est-à-dire une molécule d'H2, dans laquelle les électrons sont vraiment entre les deux hydrogènes, il n'y a aucun doute là-dessus, mais qui vont partager ces deux électrons avec le métal. C'est assez fascinant, parce qu'a priori, on n'aurait jamais pensé que quelque chose qui est une molécule toute petite, avec une distance très faible, une très très forte interaction entre ces deux atomes, va vouloir jamais partager ces deux électrons avec quelque chose d'autre, parce qu'a priori, ils vont vouloir les garder pour eux. Et en fait, on a pu isoler, ça a commencé dans les années 80, ça a été trouvé pratiquement par accident, mais ça traîne dans la littérature, il y avait des anomalies, et on a trouvé que cette molécule toute simple peut se lier à un métal et partage ses électrons. Une fois qu'on sait ça, on est allé chercher d'autres choses. Par exemple, remplacer une liaison HH par une liaison carbone-H. Ça a la même caractéristique, très forte liaison. Et on sait maintenant que la liaison carbone-hydrogène s'approche du métal. Si elle s'approche du métal, partage les électrons avec le métal. Et ça, c'est le début de toutes les réactions de catalyse. Donc oui. En fait, ces interactions faibles, elles sont faibles, sont préliminaires et induisent des réactions supplémentaires. Et ça tient de manière raisonnable. Si on chauffe cette molécule, elle va perdre son hydrogène. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous faites cette synthèse sous pression d'hydrogène. Vous avez l'hydrogène qui doit être là en présence.
Oui, il n'y a pas de méthode physique pour les mettre en évidence.
Pardon. Alors si, il y a plein de méthodes physiques. Alors ce ne seront pas les rayons X, hein, bien sûr. Vous avez toute la résonance magnétique nucléaire qui va particulièrement bien fonctionner et qui va vous localiser les hydrogènes, je dirais. Pas de manière spatiale, mais qui vous donnera en particulier la distance entre les deux hydrogènes, mais il ne vous donnera pas la distance entre le métal et les deux hydrogènes.
Pourquoi la distance hydrogène-hydrogène elle est
Parce que vous allez le trouver en faisant du couplage hydrogène-deutérium, vous pouvez relier le couplage entre ces deux noyaux à la distance de manière empirique, et la relation empirique fonctionne extrêmement bien.
Alors, merci.
Il y a toute une batterie en fait de méthodes pour identifier ces hydrogènes. On a parlé des neutrons tout à l'heure. Et il y a des astuces des chimistes expérimentateurs qui remplacent l'hydrogène par quelque chose d'un peu plus lourd qui est le deutérium. Et à ce moment-là, on va le voir avec une technique comme les neutrons, par exemple, à l'Institut Laue-Langevin, à Grenoble, à Saclay, etc. Donc on a une batterie de méthodes pour identifier ces hydrogènes comme les autres atomes. Mais c'est plus difficile parce que c'est plus petit.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expérimentateur et le théoricien vont mettre ensemble une batterie d'expériences pour prouver. On n'utilisera jamais une seule technique pour prouver quelque chose. On va toujours voir si toutes les techniques physiques et éventuellement théoriques vont converger vers le même résultat. Il faut que ça soit cohérent. C'est le cœur même de la démonstration d'une structure.
Le faisceau d'expérience.
Faisceau d'expérience, absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou alors on considère que tout est clair, déjà. Eh bien donc, je remercie encore une fois Odile du caractère lumineux de son exposé et je vous invite à venir demain, dimanche 29 mai, à 18h30, pour entendre M. Bernard Meunier, ancien président du CNRS, parler de la maladie d'Alzheimer. Et